D'abord, c'est une personne qui m'est très chère. Donc, voilà. Quelqu'un qui a une connaissance intime du texte freudien. Quelqu'un qui fait de l'œuvre de traduction de la planche autre chose qu'une affaire franco-française. Parce que précisément, elle apporte l'étrangeté d'un génocide non reconnu par les nations, et que du coup, ça lui donne la possibilité de nous rendre sensibles la relation entre un défaut de traduction et l'expérience traumatique. Voilà. Donc, voilà. Bien sûr, elle a écrit beaucoup de livres associant ces deux éléments, traduction et trauma, mais j'insiste précisément, parce que souvent c'est mal compris, c'est le défaut de traduction.
C'est du reste ce qu'elle va reprendre dans son texte. Bien sûr. Bien entendu. Donc je propose qu'on en fasse une lecture ensemble. Le texte est assez court. C'est une manière de... Vous l'avez lu ? Bon, c'est une manière de nous permettre que Janine soit parmi nous. Donc, il s'intitule « Rupture et discontinuité au service de la survie ou à celui du lien ». Et le titre n'est pas complet, puisque le titre se termine par un « chez ». Et donc, je vous laisse compléter la phrase. L'intervention qui va suivre est née d'un souvenir vivifiant qui m'est venu en lisant ces deux déclarations puissantes de Nathalie Salzmann. La première, « Pouvoir résister à la mort, c'est d'abord en reconnaître la présence ». L'autoconservation dépend de la rapidité avec laquelle un être humain soumis au risque de destruction est capable de saisir que cette destruction obéit à des lois qui n'appartiennent qu'à elle. Et la deuxième citation, « La survie commande la solitude, répudie les nostalgies, ferme la mémoire des tendresses. Les confiances ne s'engagent que sous le signe de ruptures imminentes. » Je me suis rappelé notamment ce passage du journal de déportation de mon père, un survivant du génocide des Arméniens de 1915. Nous n'avions plus d'argent, c'est pourquoi nous avons commencé à manger des herbes. Nous avons essayé de continuer ainsi pendant un mois, mais on a vu qu'on allait mourir. On faisait à peine deux pas et on tombait par terre. Ma mère a réfléchi. Moi, pour mourir, je mourrai. Vous, il ne le faut pas. C'est ainsi qu'elle nous a donné, nous deux, aux Arabes. L'Arabe nous a montés sur son âne. 6 heures plus tard, nous sommes arrivés à son campement. Il nous a donné du pain. Nous avons bien mangé. Il m'a pris dans sa tente. La personne de cette grand-mère, à qui je dois finalement ma naissance, est plusieurs fois introduite par ces mots avec lesquels mon père, adolescent de 14 ans, semble la caractériser. Ma mère a réfléchi. Il la dote ainsi d'une capacité à penser au sein même des moments où sévit l'éminence de la mort. Elle est en somme une femme de tête, son repère de vie dans un chaos mortel. Comme tous les êtres sensibles à la hiérarchie des urgences, cette grand-mère, que je n'ai pas connue, réfléchit et met rapidement en balance sa propre mort, qui n'interrompra pas la lignée avec celle de sa descendance, qu'il faut empêcher à tout prix. Moi, pour mourir, je mourrai. Vous, il ne le faut pas. À une mort certaine de l'enfant, s'il reste auprès d'elle, elle préfère l'incertitude de son destin auprès d'un étranger, auprès desquels elle l'abandonne. Elle se sépare de ses fils qui donnaient sens à sa vie pour qu'il risque de survivre et de reprendre un jour le cours de ce sens interrompu. Après cette introduction quelque peu abrupte, mon exposé se propose de mettre en relation la prise en compte justement de la rupture et de la discontinuité comme facteur de survie, telle qu'elle s'exprime dans deux élaborations théoriques aux visées respectives apparemment étrangères l'une à l'autre. On a vu ce matin que ce n'était pas tout à fait le cas. L'élaboration de Nathalie Salzmann, qui définit la pulsion anarchiste par la spécificité de sa temporalité. Citation, le mouvement anarchiste surgit lorsque toute forme de vie possible s'écroule. Et celle de Jean-François Chiantaretto, qui, lui, préconise la discontinuité et la rupture dans l'unique possibilité de confrontation après coup de celui qui a survécu à un tel écroulement et de celui qui ne peut qu'en mécomprendre le récit. C'est en tressant de nombreuses citations empruntées à chaque fois à leurs auteurs respectifs que je mettrai en relation ces deux élaborations théoriques. Ce que ces deux théorisations ont notamment en commun, c'est qu'elles prônent l'intelligence d'une stratégie qui sait que quand règne ou a régné la menace de mort, seul le pis-aller de la rupture ou de la discontinuité peut paradoxalement sauver la vie ou celle du lien avec l'autre. Celui qui doit sa survie à la pulsion anarchiste, caractérisée comme salvatrice par Nathalie Salzmann, ne peut, selon Jean-François Chiantaretto, que rencontrer, faute de mieux, cette maladresse de l'autre. Soit la traduction par nature maladroite d'un autre qui, en assumant sa place de sujet en relation, traduit à côté, dans sa propre langue subjective, ce qui l'affecte. Donc, c'est une citation. Rupture et discontinuité entament alors l'échange risqué, lacunaire de ces deux locuteurs, le survivant d'un effondrement historique qui a besoin d'être accueilli, et son Nebenmensch qui est supposé l'accueillir. Mais dont la mauvaise traduction, mal adressée, pour partie erronée, de ce qu'il a vécu ou transmis à son héritier, constitue la seule possibilité d'hébergement psychique, à condition qu'elle soit assumée comme telle et source d'auto-investissement pour l'un et l'autre. En effet, si cette traduction fautive de l'expérience du survivant manque à l'autre, du moins, elle circule comme telle, pour l'un et l'autre, offrant un espace relationnel qui, pour déplacé qu'il soit, permet un jeu au sens d'un écart identificatoire, mettant en œuvre chez l'un et l'autre un travail de subjectivation mutuellement utilisable. Il s'agissait d'une citation de Nathalie. Cette mauvaise traduction rend possible l'accueil parce qu'elle rend au moins potentiellement transformable la traduction mauvaise, persécutrice. Je soutiens en somme que la théorisation de Jean-François Chiantaretto apporte une solution à l'aporie de cette mécompréhension fondamentale et pernicieuse entre celui pour qui rupture et discontinuité signifient une perte d'amour dans un monde ressenti comme vivable et celui pour qui, citation, la pulsion anarchiste travaille à offrir une issue de vie là où une situation critique se referme sur un sujet et le voue à la mort. Elle avance l'hypothèse qu'entre le premier, qui bénéficie des liens structurants avec le monde, et le second qui a survécu grâce à sa capacité à rompre les siens, pourrait ainsi renaître un lien des hommes. Un lien conscient de son imperfection, mais fécond. Lors de cet hébergement psychique déficient qu'offrirait le bienheureux nanti, chez qui, citation, la victoire des roses se porte vers l'auto-conservation de la civilisation au risque de son usure, à son autre démuni, chez qui la pulsion de mort travaille à la pulsion libertaire, la plus individuelle contre les normes sociales, pourrait ainsi s'effectuer alors un travail de culture, un travail de liaison là où menaçait de se creuser l'écart mortifère des réactions paranoïaques. Si cette traduction fautive du premier témoigne certes d'une incompréhension qui blesse le second, elle sert pourtant provisoirement de béquille à un travail de culture commun, un travail de liaison qui réintroduit de la libido là où pourrait s'engouffrer le déchaînement des violences. Souvenons-nous qu'en proie aux plus vives inquiétudes devant la dévastation de la Grande Guerre, Freud faisait de l'ignorance et de la mécompréhension de l'autre une de ses causes quand il écrivait dans Actuel sur la guerre et la mort. Elle, la guerre, a fait apparaître aussi ce phénomène à peine concevable que les peuples de la culture se connaissent et se comprennent si peu que l'un peut se retourner contre l'autre plein de haine et de révulsion. Nos deux auteurs ne manquent pas, d'ailleurs, d'adresser une mise en garde adressée aux psychanalystes. Nathalie Salzmann dénonce l'erreur qu'il pourrait commettre là où la pulsion de mort lutte pour que le patient vive et puisse se défaire des obligations d'amour qui le détruisent L'analyste devrait pouvoir soutenir ce travail de dégagement au lieu de l'enfouir sous de nouvelles liaisons. Et Cantareto n'en met pas lui de rappeler sa tâche. Dans le cadre de la cure, l'analyste maladroit a la responsabilité de rendre utilisable la maladresse de son accueil par le patient en autorisant ou suscitant la créativité de celui-ci. Pour conclure, je rapporterai comment j'ai vécu moi-même ce genre de confrontation tragicomique entre ce qui m'était resté des traces d'une transmission familiale douloureuse et la façon dont elle me fut un jour restituée, traduite à côté. Recueillant les informations que leur livrait le journal de déportation de mon père, ces commentateurs l'avaient, lors de leur séminaire, gratifié du titre rassurant « L'histoire de la famille Altounian ». Devant l'étonnement, voire l'exaspération que je ressentis en les écoutant, je voulus comprendre en quoi consistait l'incongruité de leur intention bienveillante qui établissait ainsi les liaisons d'une synthèse, là où régnait justement leur éclatement. Elle m'offrait un miroir déformant qui éveillait en moi une curiosité de novice. Quelle histoire passionnante que celle de cette famille, j'aurais bien aimé la lire. J'ai donc considéré cette méconnaissance habituelle, s'agissant des vécus traumatiques ou de leur transmission, comme une illustration des concepts de Cantareto, mauvaise traduction, traduction à côté, hébergement psychique déficient mais promouvant un travail de subjectivation mutuellement utilisable. J'ai tenté d'expliquer à mes commentateurs, qui en somme avaient tout faux, comme disent les jeunes, en quoi ma propre expérience différait de ce qui, ainsi appelé l'histoire de la famille Altounian, ne s'était effectivement pas vécu comme tel par moi en moi. Ne m'avait-il pas fallu, au contraire, un travail de longue haleine dans la cure et par l'écriture pour amener cela à son historicisation? Je le rappelais ainsi qu'en écho à l'épisode du don de l'enfant à l'étranger, afin qu'il ne meure pas de faim, on pouvait lire celui où pointait l'espoir que cette faim cesse. Citation du journal. « J'ai eu mon travail le 2 avril, c'est-à-dire en avril 1919. J'ai raconté tout cela à ma mère et elle était très contente. J'ai reçu mon premier salaire journalier. Je suis parti tout content voir ma mère. J'étais heureux, ma mère aussi. Ma mère aussi le fut. Car nous n'allions plus avoir faim. Nous avions peur de la faim que nous connaissions bien. Ce « nous » qui liait l'adolescent à sa mère dans cette lutte contre la faim avait sans doute marqué le rapport de mon père à la vie et laissé ses traces en moi. Un souvenir écran me rappelait en effet le plaisir lumineux avec lequel, lors des récits à ses amis entendus dans mon enfance, mon père esquissait le geste de sa mère faisant du pain, quand, enfin sauvés, ils avaient pu, pour la première fois, se procurer de la farine à Alep. La mémoire sensorielle de ce plaisir vivifiant au geste maternel donnait sans doute tout son sens à ce qu'elle disait, à ce qu'il disait parfois à la fin de nos repas « Aujourd'hui encore, nous avons pu manger ». J'en ai parmi nous, si vous voulez vous adresser.